Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous venons de chanter « Toi qui aimes la vie, toi qui veux le bonheur ». Nous aspirons tous à la vie et au bonheur. Le Seigneur le veut pour nous. À tel point que, avant de communier, le Seigneur nous offrira sa paix, c'est-à-dire lui-même. Et ce que nous demandons dans notre prière, c'est justement cette paix pour notre monde. Entrons dans cette célébration en nous reconnaissant pécheurs, bien sûr, mais aussi avec la joie de vivre en communion les uns avec les autres, ce bonheur de recevoir le Seigneur, et nous avons aussi la joie d'accueillir les scouts, les louveteaux aussi. Et puis nous sommes entrés depuis hier dans un week-end de familles appelées Marie-Espérance, avec des familles et des enfants qui sont là, qui sont pleins de vie. On voit que le bonheur est aussi dans leurs yeux. Eh bien, soyons comme ces enfants, heureux d'accueillir le Père qui nous donne Jésus son Fils. Eh bien, frères et sœurs, eh bien, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons beaucoup péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action, en parole. Les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Quand on secoue le tamis, il reste les déchets. De même, les petits côtés d'un homme apparaissent dans ses propos. Le four éprouve les vases du potier. On juge l'homme en le faisant parler. C'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. Ainsi, la parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé, c'est alors qu'on pourra le juger. Parole du Seigneur.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur, car vous savez que dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n'est pas perdue. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole : Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou ? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas ? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien ?» Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. Et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, qu'ajouter de plus à ces belles comparaisons, images, paraboles qui, semble-t-il, sont explicites. C'est vrai qu'on aime écouter des histoires vraies, des paraboles, des contes, des images. Elle nous dit gentiment, au fond, comme, j'allais dire, par médiation, quelque chose de notre profonde humanité. Simplement aujourd'hui, peut-être faut-il replacer ce contexte de parabole, d'image, dans l'évangile, la suite de l'évangile, en fait qui est la suite de l'évangile de dimanche dernier. Alors peut-être vous en souvenez pas, mais dans la partie finale du passage évangélique du dimanche dernier, Jésus nous invitait à être miséricordieux comme le Père Céleste. Il nous indiquait quatre façons d'être et d'agir pour pratiquer la miséricorde. Ne pas juger, ne pas condamner, pardonner et donner sans mesure. C'est une attitude que Jésus a vu pratiquer par Saint Joseph. Je parle de Saint Joseph parce que, avec les familles, ce week-end, eh bien, nous méditons sur la personne de Saint Joseph. Bien, l'Évangile nous propose les versets de conclusion du discours que Jésus a prononcé dans la plaine à côté du lac de Galilée. Et aujourd'hui, eh bien, le Seigneur prolonge son enseignement par des images, des paraboles, etc. Son enseignement sur la miséricorde. Il compare, lui, le disciple, à son maître. La parole de Dieu est donc chargée de comparaisons, d'illustrations qui interrogent, qui nous interrogent, nous, disciples de Jésus, sur le « qui sommes-nous ?». Sirac, dans la première lecture, nous apprend par quelques sentences et images. Là, il s'agit d'une sagesse populaire, c'est-à-dire qui s'inspire des comportements habituels, c'est plein de bon sens. Eh bien, nous indique à ne pas porter de jugement sur la valeur d'une personne par un simple regard. Et il utilise trois comparaisons. La comparaison du tamis, dont le vanneur se sert, qu'on appelle aussi le crible. Ce tamis est un instrument qui permet de sélectionner une matière selon différents types de gabarits. C'est un instrument, je dirais, objectif, hein, qui permet de le tri, le discernement de ce qui est ajusté, de ce qui ne l'est pas. Et aujourd'hui, la parole de Dieu est vraiment nécessaire dans le discernement, notamment, je dirais, des discours politiques, hein, des campagnes électorales, mais aussi, et peut-être d'abord, pour nous aider à nous préparer à vivre le carême, qui va commencer la semaine prochaine. Sirac utilise aussi l'image du potier et du four. Le potier met à l'épreuve et vérifie la qualité du vase sous la pression de la chaleur et assure ainsi sa pérennité et son utilité. Ainsi, la parole humaine doit être passée au creuset évangélique pour la sonder, en éprouver la valeur, en vue de l'édification et la formation des bonnes pensées, des bonnes œuvres. Il utilise une troisième image, celle de l'arbre qui porte du fruit. Celle-ci est visible. La qualité de l'arbre et du terrain où il s'est développé donne à penser qu'il donnera du bon fruit. De même, il nous faut distinguer entre des paroles qui peuvent être mortifères de celles qui sont paroles de vie, nourries de la sève aussi, de la parole de Dieu pour nous chrétiens. Mais la sentence finale est toute de prudence. Ne loue personne avant qu'il ait parlé. Évidemment, pour Saint Joseph, nous n'avons pas de parole de lui, nous n'avons des exemples. Souvent, quand l'homme fait, il pense qu'il dit. Enfin, ses œuvres montrent aussi ce qu'il a aussi dans le cœur, si. Eh bien, en évitant de beaucoup parler, nous éviterons aussi beaucoup de déconvenues pour nous-mêmes. Avec l'Évangile, bien, nous sommes dans une sagesse, j'allais dire, divine, mais dans la même logique, en tant que mise en garde, là. Et Jésus utilise aussi des petites paraboles très courtes qui nous aident à remonter des paroles à la profondeur du cœur. Il est très imprudent de juger autrui, surtout par comparaison avec soi-même. Il y a une expression que l'on entend quelquefois. Quand je me regarde, je me désole, mais quand je me compare, je me console. Jésus dit exactement le contraire. Exactement le contraire. Jésus utilise la comparaison de la paille et la poutre, de l'arbre et du trésor. Le lien entre ces images, à première vue, ne semble pas immédiat, cependant, ils sont complémentaires. Pour nous parler de ces deux aveugles qui concernent le disciple et le maître. Un aveugle est celui qui est privé de la vue, ne peut voir la lumière. Il faut comprendre que la lucidité en matière de discernement est nécessaire. Distinguer l'inspiration de l'Esprit-Saint, de l'impulsion obscure, quelquefois du mal. Si le disciple est conduit par un maître aveugle, on peut interpréter aveugle non pas comme une personne non-voyante du point de vue physique, mais comme une personne qui ne sait pas d'où elle vient ni où elle va, et ainsi peut fourvoyer et se fourvoyer dans une voie sans issue, même dangereuse, que le maître et le disciple ne savent pas discerner. Quelle responsabilité de prendre la charge d'autrui, et jusqu'à quel point va l'ignorance de se fier à n'importe quel maître sans se renseigner sur l'idonéité de la personne. Rappelons que l'Évangile est aujourd'hui dans l'optique de la miséricorde. Et donc, celui qui pense qu'il y a un chemin supérieur à celui de la miséricorde est comparable à un aveugle. Je pense que dans ce cas-là, il s'agit d'un aveugle spirituel qui ne se connaît pas lui-même, ni Dieu, ni les autres. Soyez miséricordieux comme le Père est miséricordieux. Il y a comme une loi de la prudence dans le choix d'un guide de pensée et de vie. Nous pouvons en percevoir les conséquences heureuses ou malheureuses. Prudence aussi, avant de désirer s'instituer le guide d'autrui. Prudence encore qui consiste à se rendre compte des engagements assumés et les assumer jusqu'au bout. Vouloir diriger les autres peut sembler être un geste d'amour, mais quand on est aveugle et qu'on prétend être un guide, ce n'est pas de l'amour véritable, c'est de la présomption qui mène au gouffre. Pour nous, le maître que nous avons, que nous suivons, c'est le Christ. En ce sens, le disciple que nous sommes n'est pas au-dessus du maître. Cette imitation pour nous aujourd'hui, dans nos lieux de vie, disciples de Jésus-Christ, consiste à le suivre comme notre guide, à s'inspirer en tous des sentiments qui l'animent, à prendre avec lui le chemin de la croix et de la gloire. Quand on nous demande notre avis, nous pensons d'abord par rapport à notre propre jugement, ensuite à celui peut-être de l'Église, et quelquefois en dernier lieu, à celui que l'Évangile nous inspire, qui, normalement, est celui de l'Église. Peut-être qu'il faut inverser les choses, penser comme Jésus pense, et on le sait, on le connaît, par rapport à l'enseignement que l'Église nous donne, et adapter notre propre jugement par rapport à cet enseignement que le Seigneur nous donne. La paille et la poutre dans l'œil, c'est une image qui nous paraît invraisemblable. Ça n'enlève rien au mordant d'image. Nous parlons bien d'avaler des couleuvres, de voir 36 chandelles, c'est un peu du même acabit. La leçon inculquée par Jésus est parlante. Au fond, c'est l'hypocrisie de voir exclusivement les défauts du voisin dégrossir et de ce fait réduire les siens à pas grand-chose. Souvent, ça aveugle. Cela requiert de notre part, me semble-t-il, la loi de la sincérité. Je crois que nous avons suffisamment de travail à nous bonifier, travail de toute une vie, avant de servir de mesure pour les autres, notamment dans la pensée. Peut-être prudent avec les vers déformants qui, en général, vont grossissant les détails. Il arrive parfois que nous sommes les seuls à ne pas voir nos travers. Alors ayons un peu d'humour avec nous-mêmes. Ayons un peu d'humour, oui. En bref, dans la parole de la paille dans les yeux du frère, Jésus nous demande une attitude qui nous permette de rencontrer l'autre avec une totale ouverture, afin que nos relations avec Dieu soient établies avec lui et avec la confiance des enfants. Cela nous amène à une loi de bienveillance, vouloir du bien. Vous savez, c'est C'est l'Esprit Saint qui met en nous, j'aime bien rappeler ça, trois dispositions qui sont la paix, la joie et la bienveillance. Et ça se traduit extérieurement par la bénédiction, dire du bien, la bienveillance, vouloir le bien, la bienfaisance, faire le bien. Là, on peut vérifier qu'il y a la présence de l'Esprit Saint. Bien, l'histoire quotidienne montre que nous avons aussi des torts à nous faire pardonner. Reconnaissons le bien partout où il se trouve, comme le sincère amour de Dieu qui peut s'exprimer confusément dans des activités orientées vers le bien des personnes. L'image de l'arbre porteur d'un bon fruit envisage l'espèce du plant et la qualité du terrain. C'est ainsi que les paroles, comme un fruit du cœur, révèlent sa qualité, c'est-à-dire la mentalité profonde. Nous pourrions en dire autant des actes accomplis en raison des intentions secrètes. Qui ne vit que de soi-même déçoit toujours, même s'il accomplit des actions éclatantes. Un acte se juge non d'après son éclat, mais d'après son poids d'amour. Dès lors, qui veut produire des fruits selon l'Évangile doit avoir un cœur saint, au moins sanctifié, purifié. Et nous sommes ramenés ainsi à une conversion profonde. C'est le message de l'Évangile aujourd'hui. L'image du trésor caché, le cœur est plus rusé que tout, nous dit Sirac. Enfin, c'est plutôt Jérémie, je crois. Et le cœur est capable du meilleur et du pire. C'est ainsi qu'il peut y avoir des trésors de bonté et d'amour, mais aussi une accumulation de désirs mauvais, des péchés. Seul le Seigneur sonde les cœurs des reins, pas nous, mais le Seigneur, oui. Alors ne nous chargeons pas de ça. En conclusion, on peut dire, personne ne sera jugé sur la base des règles qui lui sont imposées de l'extérieur, mais par ce qui arrive dans le cœur de cette personne. Il faut se convertir. C'est une bonne entrée en carême. Cela comporte le bouleversement de son propre cœur, une conversion de l'esprit. Alors saint Paul, lui, se veut optimiste. Il affirme clairement que depuis le matin de Pâques, où Jésus est sorti vivant du tombeau, c'est l'homme tout entier, corps et âme, qui est appelé à l'immortalité. Nous sommes sauvés, à condition de se reconnaître d'abord perdus et sauvés par le Christ. Eh bien, rendons gloire à Dieu qui nous donne la victoire sur le péché et la mort par Jésus-Christ. Alors, dit-il, prenez courage, donnez-vous de la peine, car vous êtes appelés à l'immortalité. Bien, remercions le Seigneur de nous avoir déjà donné les fruits, c'est-à-dire le salut qu'il offre lui-même, accueillons-les, et soyons dans l'action de grâce de cette Eucharistie en accueillant, nous pauvres pécheurs, cet amour de Dieu en Jésus. Amen.